Bonjour Virginie Martin.
Bonjour Jean.
Vous avez dirigé avec Bruno Cotrès, chercheur au CNRS en sciences politiques, au CVPOF également, enseignant à Sciences Po Paris, un livre passionnant, je le montre à la caméra, Jeux de pouvoir, sous-titré Quand les politologues regardent des séries, et publié aux éditions du CERF. Cet ouvrage rassemble en plus de vous deux 12 autres politologues. Et quand votre sous-titre mentionne les séries, il s'agit bien sûr, comme on disait jadis, des séries télévisées. Nous allons y revenir, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la focale choisie est large, de The Good Wife à Dans l'ombre, de En thérapie à La fièvre, ou de The Young Pop à Scandal, en passant par Borgen et Parlement, j'ai pas tout cité, et je précise que le rapprochement des titres est uniquement de mon fait. Avec vous, et pour parodier la formule célèbre, tout n'est pas politique, mais tout peut le devenir, on peut dire que si toutes les séries, en particulier que vous avez choisi, ne traite pas de politique, toutes peuvent devenir des objets politiques.
Absolument.
C'est ce que vous nous dites, page 27, à la fin de votre introduction. Cet ouvrage ouvre donc une thèse simple. Les séries ne sont pas un divertissement, mais un véritable outil heuristique pour penser le politique sous tous ses aspects. Alors, Bruno Cotrès et vous-même, et puis vos 12 outrices, autrice et auteur, vous êtes toutes d'excellentes et d'excellents analystes du et de la politique, comme on dit en français, dans tous les sens de ce terme, la scène politique, le jeu des actrices et des acteurs qui évoluent sur cette scène, leur trajectoire et leurs histoires, et puis ce qu'ils produisent en termes de politique publique, par exemple, ce qu'on dit en anglais les policies, quand ils exercent des responsabilités. Je vais vous présenter rapidement en quelques mots, Virginie, si vous voulez bien. Vous êtes docteur en sciences politiques, avec une thèse rédigée sous la direction de Pascal Perrino et Dominique Régnier. Soutenu en 2000, et puis vous êtes professeur de sciences politiques à Kedge, une des plus éminentes des grandes écoles de commerce françaises qui dispose de deux sites, Marseille et Bordeaux.
Absolument.
Vous avez cofondé il y a quelques mois le think tank Spiral Institute, dont le site internet est très riche par sa pluridisciplinarité, mais aussi par sa présentation. Alors, j'en dis pas plus parce que je dois à l'honnêteté de dire que je suis chercheur associé au think tank Spiral Institute, et donc je veux pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Ma première question, est portée par une première réflexion extraite de la première page de votre ouvrage. Vous dites tous les deux, les séries ne sont pas simplement un divertissement, elles racontent, elles rejouent, elles exposent, elles visibilisent les enjeux majeurs de la science politique et des sciences sociales. Et puis vous complétez ainsi votre réflexion. Ce livre est aussi un geste patrimonial. Il rassemble des chercheurs et des chercheuses qui, chacun à leur manière, portent une façon d'habiter la discipline, de l'incarner, de la faire évoluer. Il tient autant du recueil que du traité, autant de l'archive vive que du travail d'écriture. J'aime bien cette formule, parce que pour tout dire, et dans un résumé, c'est pas du tout un livre chiant. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas le traité académique et pénible. Comment vous avez fait pour faire le casting, pour choisir les séries?
Alors, honnêtement, ça s'est fait assez facilement, puisqu'on a plutôt... C'est ce geste patrimonial, mais il est aussi amical, il faut le dire. Donc, on a aussi parlé à nos amis et collègues politologues et politistes, et on leur a dit, est-ce que ça vous intéresserait de travailler sur une série et avec un thème particulier qui vous est cher? Et finalement, c'est devenu ce livre choral que nous avons là. Et chacun d'entre eux, en définitive, s'est positionné sur une série, et à la fin, ça a donné pas mal de diversité. On n'a pas eu besoin, si je puis dire, d'aller chercher autre chose, d'aller vraiment départager des auteurs en disant, voilà, il faut faire de la place à l'autre, etc. Non, ça s'est fait assez naturellement. Mais on est content aussi avec Bruno parce que on a aussi toutes les générations, hein, ça va de Charlène Biondi à Michel Vivorca et Jeannine Mossuslavo, donc on est aussi très contents, c'est en ça qu'on disait que c'était un livre patrimonial, et puis c'est quand même un petit clin d'œil, même si effectivement c'est moins ardu que le traité de sciences politiques de Madeleine Gravitz et Jean Leca.
Les quatre volumes bleus.
Les fameux quatre volumes bleus, couverture dure.
C'est ça, exactement.
Pas, n'oublions pas. Mais ça avait quand même un peu cette ambition.
Ah oui.
C'est-à-dire, vous voyez, voyez, par exemple, Jeanne Mossus-Lavaux, avec la série En thérapie, parle de psychanalyse des politiques. Ouais. C'était dans le traité de sciences politiques à l'époque. Il y a toutes les, évidemment les pans sur la communication politique, les institutions. Voilà. Et donc, quelque part, on rentre un petit peu presque comme dans un traité de sciences politiques, mais via la question sérielle. Et évidemment, ça donne quelque chose de plus abordable, en effet.
Alors, toujours dans votre introduction, vous rendez hommage à la philosophe Sandra Laugier, qui a publié en 2019 un livre qui fait éventuellement, enfin, qu'on peut considérer comme pionnier. Ça s'appelle « Nos vies en série, philosophie et morale d'une culture populaire ». Et c'est sorti alors chez Flammarion. Dans ses écrits, elle insiste sur le fait que la culture populaire des séries développe une forme artistique ancrée dans l'expérience du spectateur et dans la vie quotidienne. Alors, vous-même, Virginie, en 2021, vous avez publié chez Human Sciences un livre au titre inspiré par le grand Louis Buñuel, que vous avez intitulé « Le charme discret des séries ». C'était pas la bourgeoisie, là. Ouvrage dans lequel vous avez déjà développé, dans une approche plus universitaire et académique, peut-être, ce qui constitue effectivement le plus de ces fameuses séries. Hein. Alors, Sandra Laugier parle de culture populaire. Est-ce qu'on peut considérer que les séries participent de ce qu'on appelle le soft power?
Alors, déjà, peut-être pour revenir sur la culture populaire ou ce terme. Oui. Moi, j'ai du mal à faire une distinction entre culture populaire et culture cultivée, pour, comme dirait l'autre. En effet, parce que au sein d'un même genre, il peut y avoir des choses beaucoup plus ardues et des choses plus accessibles. Mmh. Par exemple, même dans le monde des séries, certains ne regardent que des séries qui sont sur Arte, négligeant celles de Netflix. Donc, même au sein d'un même style et d'un même genre, il va y avoir aussi, ici, c'est de la culture cultivée quand on regarde chez HBO ou chez Arte, et ici, c'est la culture trop populaire quand on va sur TF1 ou même sur Netflix. Donc, ça aussi, vous voyez bien que dans un même genre, finalement, il peut y avoir ces distinctions. Et puis, après, sur la question du soft power, c'est intéressant. Et notamment, moi, je m'y suis beaucoup intéressée, en effet, dans le livre « Le charme discret des séries » que vous aviez cité précédemment, parce qu'on voit aussi qu'il y a toute une géopolitique des séries. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant de pointer cela. Chaque pays, finalement, a son arsenal de séries et donc de possibilités de se représenter dans le monde et de se faire représenter dans le monde. C'est le cas du Japon, avec notamment les mangas. Mmh. C'est le cas aussi de la Corée du Sud, avec les K-dramas.
La K-pop, enfin.
Exactement, la K-pop, ouais. Etc. Bien évidemment, les États-Unis, et avec ce terme de Joseph Nye sur justement le soft power, bien connu aujourd'hui. Donc oui, les séries racontent quelque chose de nous-mêmes, des pays, et font de la politique, et font de la politique en ce sens qu'elles mettent en représentation nos sociétés avec ces aspects, bien entendu, sociétaux, sociaux, politiques et géopolitiques, et c'est ça qui est important aussi.
Mais ce qui est passionnant aussi, c'est que vous dites ça, c'est les séries sont dans une perspective macro, hein, on voit bien que, et en particulier la mondialisation participe, hein, de cette diffusion, on va y revenir, mais le fait que, par exemple, à l'origine de En thérapie, on a une série israélienne, le fait que How to Film, c'est pas dans le livre, mais a servi de pitch, je crois, enfin, à 24 heures chrono, ou Homeland. Bon, c'est très intéressant de voir ces interactions, mais vous dites aussi, et vous reprenez un passage de Alberto Garcia qui dit, enfin vous soulignez que les séries résonnent en nous sur des registres émotionnels plus profonds que l'empathie et le sentiment de proximité ou de distance avec leurs personnages et leur situation, et ça rejoint la notion de Jason Mittal que vous citez sur la télévision complexe. La pensée s'entrelace avec l'émotion, les affects avec la cognition. Hein. Donc on voit qu'on est en fait sur un objet qui est très subtil, hein, qui ne se laisse pas uniquement appréhender par la surface des choses. C'est intéressant de le déconstruire.
C'est vrai, Et les séries se consomment d'une certaine manière aussi. C'est en ça qu'elles sont effectivement, qu'elles appartiennent à ce que Mitchell appelle celle télé complexe. Quand on va au cinéma, le geste est complètement différent. Il y a des extériorités, il y a des filtres. Déjà, on s'extrait de chez soi, généralement.
On est plusieurs, généralement, dans la salle.
Exactement, dans la salle, on est généralement plusieurs. Derrière, c'est le fameux débrief, est-ce que tu as aimé le film? Et tout ça crée, évidemment, de la distance critique. Et donc, la série, elle, se consomme différemment. Elle se consomme dans une sorte de cocon technologique, en définitive. Alors, souvent, sans intermédiaire, déjà, premier acte, donc sans filtre. Par ailleurs aussi, souvent, parfois, dans le creux d'une chambre, et ça change aussi tout en termes de plongée. Et du coup, on est véritablement dans une expérience immersive, intime et personnelle, et profondément affective et émotionnelle. Donc c'est tout cela, en fait, qui crée, si je puis dire, l'expérience particulière que de regarder une série. Effectivement, et en plus, comme tout ça se fait sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saisons, on a le temps de rentrer véritablement. Et ça a des conséquences sur soi aussi. Ça a des conséquences sur la compréhension des personnages, sur l'impact que ça va avoir sur vous, d'une certaine manière. Et donc, on va véritablement rentrer par les pores de la peau au lieu, effectivement, de rentrer par le cérébral. Ça peut être un problème. On parle, évidemment, aujourd'hui de binge-watching. On peut parler même d'addiction. À Spiral Institute, vous en avez parlé tout à l'heure, nous avons fait aussi une note sur la question de la drogue et de ses représentations fantasmées et esthétisées via les séries. Et on comprend bien que ce cocon technologique, finalement, s'imbibe en nous. Et donc, il y a un portage plus long et plus profond. Donc, ça peut être aussi un problème, bien évidemment. Il faut regarder ça aussi de manière critique. Mais néanmoins, ça nous permet aussi, pour reprendre notre sujet, de rentrer dans le politique par un biais peut-être, évidemment, plus attractif, plus attrayant que un traité classique de sciences politiques, pour le coup.
Alors, vous disiez 4 volumes au grand traité, Gravitz, c'est le cas, 4 parties, là, dans le livre. pouvoir, élection, institution, c'est la première partie. Deuxième partie, communication politique, récit et opinion publique. Troisième partie, tension démocratique. Quatrième partie, violence, trauma et conflit. Et c'est dans ces 4 parties que s'intègrent donc les chapitres et les 15 séries que vous avez analysées, chacune donnant lieu à un chapitre. Je voudrais qu'on commence par le premier chapitre de la première partie que vous avez écrit à 4 mains, Bruno et vous. Hein, il y a deux séries que vous traitez tous les deux, puis une série que vous traitez toute seule. On va y revenir. Alors, c'est tout à fait le hasard, mais vous traitez de la série Dans l'ombre, qui a été diffusée en 2024 sur France 2, adaptée d'un roman coécrit par Édouard Philippe et Gilles Boyer. Exactement. Publié en 2011 chez La Teste. Le hasard fait que je les ai moi-même présentés, ces deux jeunes auteurs, en 2011, qui étaient tout fiers de venir dans la ville de leur mentor politique, Alain Juppé, puisqu'ils avaient travaillé avec lui à la fondation de l'UMP, pour présenter ce roman, écrit là aussi à 4 mains. Et puis, au printemps 2021, ils reviennent à Bordeaux avec un livre qui s'appelle « Impressions et lignes claires » qui retrace leur passage à Matignon entre 2017 et 2020. L'un étant Premier ministre, l'autre son conseiller spécial. Et j'invite d'ailleurs les curieux à regarder sur la chaîne YouTube de Mola ce passage. Cette heure d'échange en public, le 21 mai 2021, à un an de la présidentielle de 2027, compte tenu du destin de l'un des deux co-auteurs actuels, la situation actuelle, c'est très instructif. Alors, cette série, elle a été portée à l'écran, entre autres, par un remarquable cinéaste et réalisateur qui s'appelle Pierre Scheler, qui a fait en 2011 L'exercice de l'État, très beau film avec Olivier Gourmet dans le rôle principal. Je vous laisse nous présenter Dans l'ombre, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une série qui traite de la politique, ce qui n'est pas le cas des 15 séries que vous avez choisies.
Oui, dans l'ombre, c'est vraiment un cas d'école. C'est véritablement une campagne présidentielle. Oui. Voilà. Avec toutes ces étapes. D'abord, il y a une primaire, qui se passe au sein donc du parti en question, qui va opposer donc un homme qui est en situation de handicap et une femme qui va dire des choses
un,
à la fin.
Un handicap, pardon, Virginie, consécutivement à un accident.
Un accident de voiture, absolument.
Où sa femme est décédée.
Exactement. Mmh, mmh. Donc, mais c'est important de le dire, ouais, voilà, parce ça va aussi. Enfin, il y a des suites à cela sur cette question de genre et de handicap et de discrimination, on va en parler. Mais effectivement, c'est une série qui nous fait voir véritablement, comme je le disais, toute la panoplie des étapes diverses et variées qu'il faut atteindre pour aller jusqu'à une présidentielle. Donc évidemment, les sondages, l'opinion publique, la question des médias, la question de l'argent, la question de la, aussi du discours, la question de l'organisation des meetings. Enfin, il y a absolument tout ce qu'on peut trouver dans une campagne électorale. Donc c'est véritablement passionnant. C'est toujours, ce qui est bien aussi avec les séries, c'est que c'est toujours un peu la politique en plus fort. C'est ça qui est intéressant.
Oui, parce qu'il y a une concentration.
Mais c'est ça, c'est ça. Et puis bon, voilà, on ne se perd pas en conjecture et on ne va pas remplir les formulaires administratifs, etc. Donc c'est toujours la politique en plus fort, c'est ça qui est intéressant. Mais dans cette série aussi, ce qu'on voit, c'est peut-être des héros qui sont notamment Francoeur, le candidat. C'est le héros qui est peut-être en position et en posture post-héroïque, j'ai envie de dire. Parce que finalement, il travaille sur l'empathie, il travaille sur la sensibilité, puisqu'il joue. C'est pas qu'il joue de son handicap, mais il est en situation de handicap, tout simplement. Mais il ne s'en cache pas. Et il y a cette posture, voilà, je ne sais pas exactement dans quelle typologie on le mettrait chez Max Weber, mais on serait dans autre chose, un peu charismatique, un peu rationnel légal, on ne sait pas trop où on serait, mais en tout cas, il est quand même dans cette approche plutôt post-héroïque. Néanmoins, on voit bien qu'on retravaille la virilité du pouvoir et l'héroïsation et la transcendance et la verticalité du pouvoir, parce que quand il en est au moment du meeting, il se lève fauteuil roulant et il se tient comme il peut à sa table et il chante de manière verticale et debout la Marseillaise. Donc c'est quand même important de retrouver tout d'un coup, on voit bien le cliché de la verticalité du pouvoir, à un moment donné, il faut se lever. Et évidemment, après, c'est aussi la société des affects, n'oublions pas, et des émotions. Il y a son spin doctor qui dit, ça y est, on les a eus, tout le monde pleure dans la salle, c'est bon, on a gagné. Mais je voudrais revenir aussi sur la question, justement, des femmes en politique. C'est Karine Viard qui endosse le rôle
de la concurrente
au sein du même parti, candidate malheureuse à la primaire, bien qu'elle ait triché. Et elle dit d'ailleurs, bien que je me sois rajouté 8000 voix, ce qui n'est pas rien, j'ai quand même perdu face à un infirme. Et pourquoi elle dit ça? Et elle emploie ce mot infirme, qui est quand même un mot assez violent. Et pourquoi elle dit ça? Elle dit finalement, le pouvoir déteste les femmes et le pouvoir préfère un homme, même s'il est infirme et en situation de handicap. Et elle est très violente là-dessus. Donc il y a aussi la question du pouvoir et du féminin, du pouvoir et de ses verticalités ou pas. Donc il y a tout cela dans l'ombre. Et c'est, enfin, si on déplie tout ce qu'il y a dans l'ombre, c'est absolument passionnant. Et c'est ça. Et on voit aussi, hein, je l'ai dit rapidement, mais la tricherie, jusqu'où on est capable aussi d'aller pour conquérir le pouvoir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui dans l'ombre, est très révélé et qui est assez vertigineux pour le coup. Et je disais, on rentre avec dans l'ombre et on rentre aussi avec les séries. C'est ça, tout à l'heure, je disais, c'est la politique en plus fort. C'est qu'on voit bien que on est peut-être passé d'une science politique de la rationalité à une sens politique des affects.
Oui, alors on va y revenir voilà. Sur ce qui a été longtemps d'ailleurs un point aveugle de la science politique, c'est
exactement.
La question des émotions.
Mais, exactement.
Alors je reviens pour bien expliquer la manière avec laquelle vous travaillez, et en l'espèce Bruno et vous, c'est que vous faites appel immédiatement, j'allais dire, au plus grand, au pluriel, mais évidemment à Goffman, hein,
bien sûr,
le maître, si je puis dire, de l'interactionnisme stratégique, qui aussi bien dans Asylum que dans Stigmate, hein, et puis dans la mise en scène de la vie quotidienne, hein, c'est le grand œuvre de Goffman, montre que il y a une relation en particulier à ce qui peut être le stigmate que l'on va d'ailleurs éventuellement chercher à inverser,
retourner,
pour en faire une force, voilà. Je note, vous dites, par exemple, à propos de Franqueur, hein, qui est donc, lui, incarné dans la série par Melvin Poupeau, vous dites, il montre que ce même handicapé est confronté à une tension permanente du fait du regard de la société sur lui. Est-il un handicapé normalisé ou un handicapé héroïsé, hein, voilà.
C'est ça qui est
passionnant.
Et il fait ce geste aussi que j'ai envie de qualifier de queer. Oui. C'est un peu provocateur quand on sait que c'est Boyer et Edouard Philippe qui ont écrit le bouquin et au départ.
Ouais.
Mais c'est ça, c'est-à-dire le geste queer, c'est quoi? C'est tout d'un coup,
bizarre.
C'est retourné, voilà. Oui. Et puis c'est retourné le stigmate. C'est véritablement ça. C'est on se fait insulter au regard de certaines discriminations, mais on va retourner ce stigmate dont parlait évidemment Goffman largement. Et c'est véritablement important parce que c'est comme ça aussi que c'est bien. Je trouve que. Et puis c'est quand même fabuleux dans cette série d'avoir mis en scène de manière précise, avec pudeur mais réalisme, quelqu'un en situation de handicap qui va aller jusqu'au plus haut sommet du pouvoir français. C'est quand même un point aveugle des discriminations et même de l'intersectionnalité en général. Quand on parle d'intersectionnalité, on parle beaucoup de genre, de race.
On croit que c'est empilé. Non, c'est pas empilé.
Non, c'est souvent croisé, mais souvent la question du validisme est souvent un petit peu absente de la question intersectionnelle. On parle aussi souvent de gender blind. On est aveugle aux questions de genre. Mais on est souvent encore plus aveugle aux questions de handicap.
Et puis, on termine sur Dans l'ombre, il y a aussi cette évocation de l'entourage des conseillers et des spin doctors. Vous pointez de manière très juste que le conseiller le plus proche, en fait, c'est le Boyer de Philippe.
C'est, hein,
bon, c'est César Casalonga. Lui, on a son prénom et son nom, mais la conseillère Com, qui n'est pas la aussi proche, elle ne s'appelle que Marilyn. Elle a pas de patronyme.
Hein.
Vous vous souvenez que dans L'exercice de l'État, le film de Scholler, tous les conseillers n'ont que des prénoms, dont le directeur de cabinet, qui est génialement interprété par Michel Blanc, il s'appelle Gilles. Je ne sais pas si c'est une référence au Gilles de Pierre Drieu-La Rochelle, je ne pense pas, mais il s'appelle Gilles. Hein, voilà, hein. Alors que le ministre Bruno Saint-Jean, donc Bertrand Saint-Jean, Olivier Gourmet, lui, on a bien son nom. Voilà. Les équipes de campagne, vous dites, vous regrettez un peu qu'on ne voit pas suffisamment l'équipe de campagne. Là, c'est focus sur deux personnes.
Oui,
c'est essentiel dans une histoire
politique. C'est vrai. Et surtout, j'aime bien aussi rappeler la distinction que faisait Laurent Bouvet à l'époque, où il disait il y a le spin doctor et il y a le spine. Et c'est vraiment intéressant parce que finalement, le spine, c'est quoi? C'est absolument garder la ligne, garder le programme, être fidèle voilà, à ce qu'on veut raconter. Et puis le spin doctor qui, lui, va être le grand communicant, le grand stratège. Voilà. Alors, est-ce que est-ce que là, on est entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité? On est peut-être quelque part entre les deux, effectivement. Mais il y a aussi tout ça, et on le voit dans le personnage de César, c'est compliqué de tenir la ligne.
Éthique de conviction, éthique de responsabilité, je rebondis là-dessus, Virginie. On oublie souvent, parce qu'on ne va pas lire plus loin chez Weber, qu'à peu près une trentaine de pages après avoir défini ces deux éthiques, il dit « contrairement à ce qu'on peut penser, l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité ne sont pas incompatibles. Celui qui possède les deux, de celui-là, on dira qu'il a vraiment la vocation politique.
Voilà. Et surtout, c'est cette tension entre les deux. Ouais. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, cette éthique de conviction et de responsabilité, peut-être qu'elles doivent être aussi interrogées différemment, peut-être aussi. Parce que le monde politique est tellement sous contrainte, dans une condition d'empêchement généralisé. Je ne sais pas si on ne devrait pas aussi penser à la question des possibles. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on serait dans une éthique de conviction parfaite ou de responsabilité parfaite. De toute façon, qu'est-ce qui est possible de faire? Et c'est ça aussi qui est intéressant dans les séries. On est moins frustré politiquement. Parce que dans les séries, le champ des possibles est réélargi. Et ça, c'est quand même intéressant. Ils ont quand même rarement de problèmes de budget à faire passer, il faut le dire. Ils ont rarement de budget comme limité. Quand ils veulent faire passer des lois, ils y arrivent assez bien. C'est quand même assez sympathique de retrouver cette performativité du politique dans les séries. Voilà, c'est aussi cette histoire du possible que je trouve intéressant.
On va évoquer la question du financement, d'ailleurs, tout de suite. Alors, dans cette partie, on ne peut pas en parler, mais il faut les citer parce que c'est passionnant. Benjamin Morel, constitutionnaliste et brillant, a écrit sur Parlement, la série sur le Parlement européen. Et Gaël Brustier sur The Young Pop, bon, qui est une série tout à fait étonnante, faite par Paolo Sorrentino, donc, dont on connaît le chef-d'œuvre, la grande de Bellazza. Alors, je ne sais pas si The Young Pop, incarné par Jude Law, a provoqué une croissance exponentielle des vocations dans l'Église catholique, apostolique et romaine, mais enfin, ça aurait pu, sans aucun problème.
En tout cas, ça travaille quand même. Je trouve que ce qui est intéressant dans The Young Pop, c'est aussi la question du charisme. Mais là, c'est un charisme, alors qu'on parle tout le temps de transparence, là, c'est un charisme aussi lié au secret et à la non-transparence. Et c'est quand même intéressant aussi de l'évoquer rapidement.
Et puis, c'est intéressant d'avoir rapproché deux institutions comme le Parlement européen d'un côté, et puis le Vatican de un miroir, parce que ce sont des institutions qui nous sont très connues, mais dont on ne connaît pas exactement le mécanisme. Alors, on va évoquer le quatrième chapitre de cette partie, c'est The Good Wife. Alors, c'est une série tout à fait passionnante. Cette saison, 156 épisodes, d'abord au Québec sous le nom de Une femme exemplaire, et puis diffusée en France à partir de février 2011. Vous avez, un peu à chaque fois, mais vous avez choisi un angle particulier.
C'est ça.
C'est le financement des partis politiques. Alors, le Good Wife est tellement riche qu'on aurait, vous auriez pu prendre autre chose.
Voilà. Absolument.
Dites-nous en quoi... Parce que vous faites là encore référence à des figures, hein, Anthony Downs donc avec le Public Choice et son livre écrit en 57, on est encore sous Eisenhower, hein, An Economic Theory of Democracy, c'est quand même incroyable. Hein. Michel Auferlé va reprendre ça après en France dans les années 90 en sciences politiques. Pourquoi avoir eu cette idée de parler du financement des partis politiques, enfin des campagnes électorales?
D'abord, dans The Good Wife, à un moment donné, la question des super PAC se pose.
Oui, voilà. Dites-nous ce que c'est que
le super PAC, c'est véritablement d'aller recueillir et de faire des levées de fonds pour avoir de quoi aller à l'élection présidentielle ou à la sélection. Quelle que soit l'élection sénatoriale ou autre.
Et c'est nos limites aux États-Unis.
C'est nos limites. Ce qui nous a intéressé, pourquoi on a pris ça? Bon, effectivement, comme vous le dites très justement, on aurait pu prendre la question des femmes en politique, qui était assez évidente, du pardon ou que sais-je. Mais oui, on a pris ça parce que, alors déjà, comme on le dit, on voit le parti politique là, véritablement, comme une organisation, comme une entreprise qui doit aller récupérer des fonds, des parts de marché, qui doit correspondre à quelque chose, qui doit plaire aux gens et aux sondages, qui doit, vous parliez d'Anthony Downs, qui doit respecter finalement une offre et une demande. Hein, on est véritablement dans ces travaux-là et dans cette tradition, véritablement. Ça, c'est vraiment intéressant dans The Good Wife. Mais les super PAC, ça nous a intéressé aussi, le financement, parce qu'on l'a comparé aussi avec la France. Ouais. Et c'est ça qu'on fait dans ce chapitre particulier. Et on dit finalement, la France, c'est très tenu, c'est très contraint, c'est très réglementé, évidemment, la loi sur les financements des partis politiques. Et on a posé la question de l'indépendance, finalement. États-Unis versus France. Et c'est vrai que souvent, en France, on a plaisir à dire que les hommes et les femmes politiques ne sont pas très indépendants parce qu'ils n'ont pas de travail à côté, généralement. Ils n'exercent pas de profession réellement à côté. Et ils sont dépendants de leur élection et de leur réélection à vie. Et donc, on leur jette énormément la pierre sur ce point. Et aux États-Unis, on a des personnages comme Trump qui disent, et d'ailleurs, dans The Good Wife, hein, il y a quasiment les mêmes mots et les mêmes dialogues, il y a des gens comme Trump qui peuvent dire, ben, moi, je suis très fortuné, donc je suis indépendant, en fait, du système, je peux me présenter, je ne dépends pas de l'État américain. Et finalement, on a un peu bousculé cette notion d'indépendance dans les deux pays. Peut-être qu'en France, effectivement, il y a peu d'indépendance, effectivement, parce que les gens n'ont pas assez d'argent eux-mêmes, oui, dont acte, et qui dépendent donc de la puissance publique. Et donc, ils sont obligés un peu... voilà, on parle aussi des travaux de Katz et Mer, vous savez, sur le cartel politique, le cartel qui est le parti politique. Donc, il faut absolument, avec la complicité de l'État, conserver l'organisation politique intacte. Et on fait...
D'où l'État profond.
Et bien sûr, et on fait aussi nos propres règles. Ok, on fait une loi sur les financements politiques, mais qui est-ce qui a fait la loi sur les financements politiques? Ben, les partis politiques eux-mêmes. Donc tout ça, évidemment, est dans une forme de cartélisation, enfin, selon certaines théories. Et puis, de l'autre côté, aux États-Unis, donc, on prône l'indépendance, comme je le disais. Mais en fait, ils ne sont indépendants de rien du tout. Parce que c'est ça, la question. Très bien, ils arrivent avec leurs millions, voire leurs milliards. Mais néanmoins, on voit bien aussi comment quelques grands fortunés américains, finalement, sont en plein conflit d'intérêts puisqu'ils ont profondément besoin de l'État. Et donc, en fait, des très grandes fortunes à la Elon Musk, typiquement, à bénéficier de largesse de l'État, via pour Tesla, absolument considérable. C'est pareil aujourd'hui pour les géants de la tech. On voit combien, aujourd'hui, ils sont en train de basculer vers Trump parce qu'ils ont besoin, de toute façon, de certaines lois étatiques. Donc, ces gens, finalement, ont fait leur fortune en plein conflit d'intérêts avec l'État américain. Et après, effectivement, ils peuvent raconter leur fortune. Mais leur fortune va continuer à s'amplifier parce qu'ils vont garder le pouvoir politique aussi pour eux. Donc, c'est extrêmement lucide, finalement, d'aller mettre ça en lumière et de ne pas penser qu'il suffit d'avoir de l'argent soi-même pour être indépendant de la chose politique. Et de ne pas avoir d'argent soi-même ne rend pas forcément ultra-dépendant ou ultra-indépendant. Voilà, tout ça, ça met un peu, j'allais dire, les choses plus à plat. Et The Good Wife est une occasion. Vous le voyez bien, à chaque fois, hein, on traite ça quand même de manière très classique politologique. Oui, hein. Oui, oui. On voit bien, on est là, effectivement, dans une forme de rationalité, d'argent et de part de marché dans la sphère de la chose politique.
Alors, on passe à la deuxième partie. Il y a trois séries qui sont traitées dans cette partie. Philippe Marlière, qui est professeur de sciences politiques au University College de Londres, a rédigé le chapitre sur Mad Men, on va y revenir, sur pour la genèse du marketing politique. Charlène Biondi, docteur en sciences politiques de Columbia University à New York et chercheur associé à l'Institut Montaigne, vice-présidente chez Moody's, a écrit le texte sur la série La Fièvre. Et puis vous-même, Virginie, seule cette fois sur la série Scandale autour du sujet sexe et politique. Alors, Philippe Marlière, il traite la série Mad Men. En fait, ça raconte l'histoire d'une agence qui s'appelle Sterling Cooper et qui est située à Madison Avenue, tout le jeu de mots Mad Men, hein, les hommes de Madison Avenue, mais pas que ça en anglais. Là aussi, cette saison, 92 épisodes, la diffusion en France, c'est 2008. Cette série, elle a été unanimement saluée pour la qualité de ses images, de sa reconstitution de l'Amérique des années 60-70, et on peut dire, Marlière dit qu'elle est éminemment politique, cette série, puisque le personnage principal, incarné par Yon Hamm, c'est Don Draper. Il a existé un Draper Daniels dans les années 50, très grand publicitaire qui, entre autres, a inventé le célèbre cow-boy Marlboro, auquel on a retiré sa cigarette il y a quelques années. Et cette série, elle permet de traiter du marketing politique. Alors, tout le monde a appris le grand tournant de la campagne présidentielle de 60, le fameux débat Nixon-Kennedy. Qu'est-ce qui bascule à ce moment-là? Et qu'est-ce que Mad Men nous permet de lire de ce qui est devenu maintenant une évidence, qui est le marketing politique?
Bah, d'abord, Philippe Marlière le rappelle, le marketing politique est un peu un sous-produit de la science politique, ce qui est finalement dommage, parce que quand on fait de la sociologie électorale ou de la géographie électorale, on est déjà en creux quelque part dans le marketing politique, puisqu'on va segmenter les gens, on va les mettre comme ça, les positionner géographiquement, qui vote quoi.
André Siegfried, quand il fait son tableau politique, on est bien de la France de l'Ouest jusqu'en 1913, et qui prend les hobereaux qui sont devenus républicains en Vendée ou en Loire-Atlantique.
C'est le calcaire et le granit.
Exactement.
Voilà, on est vraiment là-dedans.
On est dans le marketing.
Et on est déjà en creux, finalement, dans la question du marketing. Donc, c'est quand même dommage de considérer cette partie-là comme un peu une sous-discipline. Donc, c'est ce que rappelle Philippe Marlière, justement. Mais ce qui est intéressant dans Mad Men, qui est une série absolument chef-d'œuvre, c'est une encyclopédie véritable. Il y a quelques, donc... épisodes qui sont consacrés à la politique au sens strict, hein, sinon ils sont des grands publicitaires pour la cigarette, pour les transports aériens et j'en passe. Et en fait, ils sont sidérés parce que il y a le débat Nixon-Kennedy qui passe à la télévision. Et on voit finalement Nixon dans le logos, dans le programme, dans l'intellectuel, dans on déplie les arguments, si je puis dire, et qui est finalement un homme de radio ou un homme de presse écrite. Et puis, on voit arriver Kennedy, qui tout d'un coup est un homme de télévision. Et là, on a les débuts, véritablement, de l'émotionnel que l'on voit se jouer devant nous. Et dans l'agence, ils sentent qu'il se passe quelque chose. Ils se disent, tiens, la politique est en train de changer de registre. Alors, ce que dit aussi Philippe Marlière, moi, je trouve que c'est intéressant. Il dit aussi, mais attention, tout ça... Oui, OK, ça va prendre forme définitivement à ce moment-là. Très bien. Mais il ne faut pas croire non plus que par le passé, nous étions tous en train de regarder précisément 150 pages de programme écrit à l'encre bleue et à la plume d'oie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il casse un peu ce cliché que je trouve intéressant, comme si aujourd'hui, nous étions devenus, évidemment, intellectuellement abrutis par trop de communication. Donc, ça aussi, c'est intéressant, mais voilà, on passe quand même, c'est vrai, dans cette mise en scène du politique via l'écran de télévision, et on va passer encore plus loin aujourd'hui, bien évidemment, dans cette société des affects, via les réseaux sociaux, où on passe là peut-être dans un autre paradigme, en effet.
Alors, très belle transition, merci Virginie, puisque ça nous amène à La Fièvre, avec de Charlène Biondi. Alors, je rappelle que La Fièvre, elle est écrite au niveau du scénario par Éric Benzekri et Ziad Doueiri, qui ont écrit, au moins pour Benzekri, Le Baron Noir.
Hein, le fameux
Baron Noir. Alors, que vous ne traitez pas dans le livre, parce qu'il a été...
Il a été tellement traité, on ne savait plus comment dire.
Voilà, exactement. Mais bon, le parcours de Benzekri, on le connaît. Il fait ses classes avec Julien Drey. Il fait 2 ans au cabinet Jean-Luc Mélenchon, quand Jean-Luc Mélenchon est ministre délégué à la formation professionnelle dans le gouvernement Jospin, entre 2000 et 2002. C'est tout à fait passionnant. Et puis La Fièvre, au départ, ça parle pas de politique. C'est une histoire de coup de boule balancée par un joueur de foot. Hein,
c'est ça.
Et comme écrit Charlène, on aurait pu écrire « Tout commence par un smartphone ». L'incident du coup de boule n'aurait jamais eu le même retentissement s'il n'avait pas été en premier lieu capté par la caméra du téléphone d'un voisin de table. Quand on lit ça, on se dit, mais c'est l'histoire de Thomas Legrand et Patrick Cohen qui sont filmés par un voisin de table avec un smartphone. Et ça fait un buzz politique qui dure des jours et des jours et qui rebondit de temps en temps. Elle dit, Charlène, ça c'est vraiment à noter, c'est page 99, les réseaux sociaux incarnent le lieu du politique, le lieu entre guillemets, le lieu du politique par excellence. Ils créent le débat, ils manufacturent les clivages, et orientent les décisions politiques. Alors, Virginie, sur les réseaux sociaux.
Moi, je trouve que le travail de Charlène Biondi est remarquable de ce point de vue-là, parce qu'elle raconte, et on le raconte, moi je travaille aussi avec Pierre-Antoine Chardel sur les réseaux sociaux, et qui raconte ça aussi très bien, mais ici, c'est vraiment le réseau social qui devient finalement le lieu de la fabrication du politique. Ce n'est plus le politique qui est mis en médiation par des médias, mais c'est le politique qui se crée en définitive dans le réseau social lui-même, comme si le réseau social était producteur finalement de politique. Et c'est ça qui est intéressant. On est dans ce matérialisme historique, c'est-à-dire que on a la machine à vapeur qui donne du capitalisme, et on a tout d'un coup le smartphone, au début était le smartphone, qui va donner du politique et une conscience collective différente et qui va nous faire basculer très vivement dans cette société de polarisation, de fragmentation, de bulles cognitives, de confirmation, mais aussi de récompense à la polarisation. C'est ça qui est aussi important. C'est pour ça qu'on est dans un geste profondément performatif, en fait. C'est véritablement la visibilité va créer du politique.
Et le contenant devient le contenu.
Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment le geste de Austin. Qu'en dire, c'est faire.
Exactement.
On est véritablement là-dedans avec ces réseaux sociaux dans la chose politique. Et cette récompense à la polarisation est extrêmement importante parce qu'on voit en définitive que plus on clive, plus on est excessif, plus on ouvre des fenêtres d'Overton, plus on va avoir de likes. Et finalement, donc ça nous renforce dans cette folie de polarisation et de clivage. Donc c'est ça qui est passionnant dans le propos de Charlène. Et on est dans ce geste peut-être un peu butlerien de super performativité du réseau social lui-même qui crée finalement ce qu'il est en train de faire, tout simplement. Et c'est très impressionnant parce que peut-être aussi qu'on est dans ces verticales de visibilité qui vont créer du politique. Je m'explique. Si on prend Sébastien Lecornu, qui est plutôt discret sur les réseaux sociaux, mais qui a vraiment un poids institutionnel en tant que Premier ministre, et on va prendre quelqu'un comme Jordan Bardella, qui n'a pas beaucoup de poids institutionnel, nonobstant évidemment son rôle au sein du Rassemblement national, mais qui, parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, performe sa puissance et performe sa visibilité et crée du politique. Derrière cela, qu'est-ce qu'on voit ? On voit évidemment des effets immédiats dans les sondages, des effets de notoriété incommensurables et des effets aussi sur quelle est la personnalité qu'on a envie de voir le plus. Eh bien, il y a une forme de Bardella-mania, pour le dire de manière un petit peu comme ça. Mais comme on avait vu une Macron-mania à l'époque de 2016-2017, avec beaucoup de mise en média, mais là, c'est beaucoup plus fort que la mise en média. C'est vraiment la visibilité qui va créer du pouvoir directement. Donc, on est dans un matérialisme qui crée du politique.
Alors, ça, c'est tout à fait...
La bascule est vertigineuse.
Oui, c'est passionnant parce que ça nous amène aussi à Scandale, le chapitre que vous avez rédigé donc, sur le thème sexe et politique. Vous dites « Le scandale n'est plus un impensé de la science politique et s'il n'est pas banal, il en reste néanmoins normal », comme le rappellent les analyses de Damien Lutoblic et Cyril Lemieux dans un vieil article publié dans Politics. Vous abordez là un sujet qui a été aussi un point souvent négligé, qui est la relation entre psychologie et politique. Ça pouvait même être un élément justement de stigmate, de traiter une approche politologique de psychologisme à une époque. Les choses ont complètement évolué. Alors grâce à, j'allais dire, à la convergence, non pas des luttes, mais des textes. De Pierre Legendre, hein, Jouir du pouvoir, c'est quand même un travail pionnier. On est en 1976. Puis il y a eu Pierre Ansart en matière de sociologie des émotions. Il y a eu, bien sûr, Philippe Brault, sur l'émotion politique. Et puis Anne Huxel, la vie privée des convictions. Avec cette belle phrase de Robert King Merton, qui a qualifié de théorème l'approche de William Thomas, quand les hommes et les femmes, quand les hommes et les femmes définissent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. Ça rejoint exactement ce que vous disiez. Vous avez écrit récemment à propos du grand bain politico-émotionnel aujourd'hui sur la fausse la paparazzade qui a concerné Jordan Bardella et Marie-Caroline des Deux Siciles. On est exactement dans ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire la mise en scène d'une histoire s'interpénètre amour, gloire et beauté, quoi.
Oui, grosso modo, après, sur l'histoire de Jordan Bardella, on peut aussi penser que le
vous dites que peut poser des problèmes.
Ça peut poser des problèmes, oui. Parce que voilà, on est sur un parti qui nous explique et qui arrive aussi avec le gaucho-lepénisme, comme le disait Pascal Perrineau, et qui a aussi un électorat extrêmement populaire et qui dit souvent la périphérie est fabuleuse et le centre est délétère. Nous sommes du côté du travail, du côté des gens qui travaillent et qui suent le matin tôt dans leur voiture et qui payent l'essence très cher. Et puis tout d'un coup, on est au contraire dans l'ultra-argent, l'ultra-noblesse, l'ultra-centre. Et là, on cumule beaucoup, beaucoup de stigmates de richesse, pour le dire comme cela, et de stigmates de centralité absolue et de concentration. Et ça vient quand même percuter un peu le discours du RN, évidemment. Mais pour revenir sur Scandale, ce qui est intéressant dans Scandale, c'est aussi, on voit comment Olivia Poupe, qui est la patronne de cette agence de gestion de crise, voilà. Mais elle gère quoi comme crise?
C'est plutôt, comment elle s'appelle, Madame Beau, de Image7, là.
Oui,
en France.
En France, ça serait ça. Oui. Mais c'est là, je trouve que c'est intéressant, c'est que elle gère souvent. En fait, on est presque dans de la biopolitique. Il faut gérer les corps.
Parce que Foucault, quoi.
On est presque chez Foucault, en effet. C'est-à-dire qu'en définitive, tous les scandales qu'elle gère, la plupart du temps, ils ont un rapport au corps. C'est-à-dire l'adultère, la tromperie, le viol, l'abus, la violence corporelle, mais aussi qui va jusqu'au meurtre. Donc on voit bien la grossesse. Il faut gérer des corps en mouvement alors que la politique veut les faire taire. Et c'est très intéressant. Et le pouvoir politique a besoin que ces corps se taisent pour évidemment continuer à progresser tranquillement en l'espèce à la Maison Blanche. D'accord. Mais ces corps sont toujours déchaînés. Ils font toujours autre chose que ce qu'on leur demande finalement. Et Olivia Poupe est là pour éteindre tous ces feux multiples et variés, qu'ils soient grossesse ou tromperie. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, je vais revenir, on s'en doute, sur Levinsky ou DSK, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit la puissance de la communication, c'est-à-dire le cadrage, le récit, raconter quelque chose plus vite que l'autre, aller au-delà de la vérité, imposer son récit, imposer son regard. C'est ça qui compte en définitive pour cette gestionnaire de crise qui est Olivia Pope.
Qui est une afro-américaine.
Et qui est une afro-américaine, absolument. Et c'est ça qui compte. Il faut imposer sa propre vision à l'opinion publique. Avoir un peu de journaliste dans la poche, évidemment. Aller plus vite et crier toujours plus fort. Et il y a une série qui s'appelle The Loudest Voice et qui raconte comment Trump, finalement, en hurlant plus fort que les autres, est arrivé à s'imposer. Et on peut penser aujourd'hui, hein, dans le champ politique français, qu'il y en a qui crient très, 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 très fort, notamment évidemment
le bruit et la fureur.
Voilà, et puis voilà, très, très à gauche ou très à droite, ça peut crier très fort. Et The Loudest Voice, il en restera toujours quelque chose, et c'est ça aussi l'effet du récit et du cadrage et du contre-cadrage. Et Olivia Pope joue à cela, si je puis dire, mais avec une puissance et une efficacité incroyable, bien plus efficace que Dominique Strauss-Kahn, parce que finalement, sa carrière s'est scratchée un jour à New York dans un hôtel. Et malgré l'aéropage de communicants qui est arrivé à sa rescousse, sa carrière politique en France s'est arrêtée net. Donc scandale, c'est quand même tout ça. Mais ce que je trouve aussi intéressant, et peut-être ça parle aussi aujourd'hui de ce qui se passe dans le champ politique français et dans l'actualité, c'est aussi que cette mise en scandalisation peut ouvrir des fenêtres, peut ouvrir des possibles. Ce qui choquait va devenir peu à peu normal et peu à peu acceptable. Et ça va ouvrir ce qu'on appelle des fenêtres d'Overton. Par exemple, regardez sur les noms, très rapidement. Quand Éric Zemmour dit sur un plateau télé, vous auriez dû vous appeler Corinne. Il choque, il provoque, il crée du scandale, mais finalement, il crie plus fort que les autres, il se fait connaître, et d'une certaine manière, il pousse un petit peu le curseur pour que ce qu'il vient de dire soit scandale aujourd'hui, mais acceptable après-demain. C'est ça l'idée. Quand Jean-Luc Mélenchon, dans un meeting, dit... Au fait, est-ce qu'on dit Glucksmann ou Glucksmann sur un nom à consonance juive, ça n'a échappé à personne. On voit bien qu'au départ, il y a scandale. Et puis à la fin, il y a une espèce de rattrapage du récit. Oh, je me trompe toujours dans les noms de famille, etc. Et finalement, d'un scandale qui fleure tout de même et qui sent très sérieusement l'antisémitisme, eh bien finalement, on ouvre un petit peu plus loin le champ de l'acceptabilité. C'est ça aussi que nous montre scandale. C'est cette mise en scandalisation qui finalement banalise ce qui ne devrait pas être banal.
Mais Olivia Pope, elle est quand même parfois, ça c'est le génie des scénaristes, elle est parfois elle-même étonnée de ce qu'elle voit de sa taxinomie là et de en tant qu'entomologiste des politiques. Elle dit: je pourrais spéculer indéfiniment sur ce qui a poussé l'homme le plus puissant du monde à tout risquer pour satisfaire une malheureuse pulsion sexuelle. C'est vertigineux en effet.
La fiction dépasse la réalité, réalité dépasse la fiction.
Exactement. Bon, on arrive à la troisième partie parce que malheureusement on pourrait discuter des heures et le temps passe vite. La troisième partie, il y a quatre chapitres. Ça s'appelle Tension démocratique. Alors, les contributeurs, c'est Arnaud Mercier, excellent professeur en information communication à l'Institut français de presse à l'université Panthéon-Assas. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, mais enfin, tout le monde aura reconnu. Donc, il traite En place. Une série humoristique remarquable de Jean-Pascal Zidi, dans le rôle principal aussi. Muriel Rouillé sur Borgen, la célébrissime série Borgen. Cécile Alduit, qui est agrégée de littérature moderne, professeure de littérature de civilisation française à Stanford University. Elle met ses pas dans les grands Français qui sont allés entre René Girard et Michel Serres à Stanford. Elle traite de « The Good Fight ». En ciblant son chapitre sur justice et état de droit dans l'Amérique de Trump. Et puis Ariane Chebel d'Apollonia, qui elle enseigne à Rogers University, l'université d'état du New Jersey, puis à Sciences Po Paris, sur la crise migratoire et le populisme. Ça s'appelle Years and Years. Dans cette partie, il y a un passage qui est tout à fait passionnant, puisque en écrivant sur ces quatre séries, Bruno et vous dites « La troisième partie du livre explore les tensions profondes qui traversent les démocraties contemporaines. Elle met en lumière les failles et les contradictions des démocraties face aux défis de l'intégration sociale, de la justice sociale, de l'écologie et du populisme. Ces séries mettent en scène, chacune à leur manière, des figures politiques ou citoyennes confrontées à l'état de droit, à l'instrumentalisation de l'universalisme, à l'ambiguïté des valeurs démocratiques ou à la montée de l'autoritarisme. Ce que je trouve passionnant, c'est que, en fait, ces séries qui abordent les tensions de notre système démocratique, elles montrent aussi que les questions de conviction sont essentielles.
Oui, en tout cas, ce qui est intéressant dans ces chapitres, c'est les dérives possibles. Et oui. C'est peut-être la fonction aussi sémaphorique des séries. C'est peut-être ça qui est intéressant. Elles nous disent attention.
Métaphorique attention. Et sémaphorique.
Exactement. Elles nous disent attention, attention. On met le doigt ici dans un engrenage qui peut être extrêmement dangereux. Et typiquement, Years and Years, c'est ça. C'est une Europe qui bascule vers des démocraties illibérales. La leaduse dans Years and Years, traitée donc par Ariane Chebel d'Apollonia, la leaduse, c'est Vivienne Roque, qui serait finalement... l'enfant de Boris Johnson, Donald Trump et Marine Le Pen, peut-être quelque chose de du genre.
Et Giorgia Meloni.
Et peut-être un peu Giorgia Meloni aussi. Et donc, on est là confronté. On suit une famille hein, dans Years and Years, on suit une famille et cette famille va subir en fait ce politique qui est complètement décalé, complètement aussi déjanté et délétère en même temps, qui va vers l'illibéralisme, le populisme, mais tout ça va s'incarner très concrètement dans leur quotidien, le social, l'ubérisation, la précarisation, mais aussi la technologie, la surveillance. Il y a tout ça dans Years and Years et aussi une crise de migrants extrêmement importante. Donc, Years and Years, qui est aussi une série, il faut le signaler, hein, qui est fait par un génie absolu, qui est Russell T. Davies, et qui a fait aussi It's a Sin. It's a Sin, c'est quoi ? C'est une série sur les années 80, avec les débuts du HIV à Londres, qui est une série remarquable, avec une bande son absolument émouvante. Et là, il signe encore, je trouve, un traité de science politique à lui tout seul, quelque part, avec cette série Years and Years, dont Ariane a eu la charge.
Mais on dit souvent que la science politique ne peut pas être prédictive. Je ne sais pas si c'est votre conception. La dimension parfois dystopique de certaines séries... alors, je ne parle pas de La Servante écarlate, parce qu'à la limite, c'est autre chose, là.
Bon, on est d'accord.
Est-ce que, effectivement, vous pensez qu'il peut y avoir, dans cette dimension que vous appelez sémaphorique, c'est des lanceurs d'alerte, parfois, ouais. les politologues, ils peuvent...
Moi, j'ai vraiment appelé, dans mon précédent livre, Le charme discret des séries, j'ai dit les séries sont des lanceuses d'alerte.
D'accord.
Absolument, absolument. Elles ont alerté sur les dérives technologiques et de surveillance. Elles ont alerté sur les dérives et les problèmes écologiques et environnementaux, sur les énormes disparités d'inégalités économiques dans le monde. Elles alertent sur tout ça. Faut-il encore regarder celle-ci de série et les regarder peut-être avec cet œil-là. Mais par ailleurs, et par rapport à la question que vous posez, je trouve qu'il est important d'être capable de regarder les signaux faibles. Et les signaux faibles, je trouve qu'on ne les regarde pas assez. Moi, après, je suis une qualitativiste en sciences politiques. Je ne travaille que très peu avec les chiffres, contrairement à mon collègue Bruno Cotresse, qui est plutôt un quantitativiste.
C'est pour ça que vous complétez
et
bien.
On se complète très bien pour cela, entre autres, pas que pour cela. Mais je suis une qualitativiste parce que j'aime bien aller chercher un petit peu... derrière un peu le rideau, qu'est-ce qu'on ne voit pas encore, qu'est-ce qu'on va... Et c'est pour ça que ce qu'on appelle cette culture populaire, même si je n'aime pas ce mot, dit quelque chose aussi, va sentir. Et puis, les créateurs de séries sont plus libres. Ils ne sont pas tenus par la politologie, la science d'une prédiction qui ne s'avérerait pas, un sondeur qui aurait mal fait son sondage, ou que sais-je. Ils sont libres, et ils sont libres d'aller sentir l'air du temps. Et c'est ça aussi que je trouve important dans ce genre de corpus qui nous raconte quelque chose. C'est comme, par exemple, quand j'avais travaillé, j'ai fait ma thèse sur le Front National, à l'époque, ça s'appelait Front National, voilà.
Ouais. La ville de Toulon.
Et sur la ville de Toulon, sous la direction de Pascal Perrineau, qui avait en plus préfacé mon premier livre sur Toulon, etc. Donc c'est une grande histoire. Et c'était très intéressant de voir, quand on travaillait, j'avais à peu près 1000 pages d'entretien qualitatif, en non-directif, pur, et une petite pensée à Guy Michelat pour cela. Et on voyait déjà quoi ? Eh bien, on voyait un vote d'adhésion sans aucun problème, en définitive. À la question du Front National. Et le plus petit dénominateur commun se retrouvait sur la question identitaire, immigration, et il n'y avait aucun problème là-dessus. Donc, il pouvait y avoir ce qu'on avait appelé le vote protestataire, mais ceci n'empêchait pas le vote d'adhésion en même temps. On peut avoir l'un et l'autre en même temps.
Et se focaliser sur le vote protestataire, ça avait un effet masquant sur peut-être, les, comme disait Sartre, les soucis profonds.
Exactement, et les soucis profonds, on le voit bien, reviennent quelques années en force.
Dernière partie, violence, trauma et conflit. Quatre chapitres, là encore. On disait au début de notre entretien, c'est un livre patrimonial. Donc, le premier de Janine Mosius-Lavaux, on ne la présente plus, tellement elle a marqué des générations de chercheurs et de chercheurs. Son chapitre est un petit bijou de réflexion sur la série En thérapie. La psychanalyse est-elle politique, hein? Je rappelle En thérapie, écrit par le duo célèbre Toledano-Nakache, hein, et puis adapté d'une série originellement écrite et produite par Agag Lévy, dont le M du Monde, de la semaine dernière d'ailleurs, fait un très beau portrait, Agag Lévy. La série s'appelait Betipoul, je prononce mal l'hébreu. On va y revenir parce que c'est vraiment tout à fait passionnant. Christine Pina, qui est professeure de sciences politiques à l'université Côte d'Azur, je crois que c'était déjà dit,
Nice
au Fiorentipolis, moi je parle en ancien franc. Alors sur un sujet terrible, hein, c'est ce fait divers terrifiant, une tragédie. La série s'appelle Sambre. Sambre, c'est cette rivière du nord de la France avec ce violeur en série qui pendant 30 ans a violé sans doute plus de 50 femmes. C'est tellement vertigineux qu'on n'a même pas le décompte exact. Hein. Donc c'est entre les faits sont survenus entre 88 et 2018. Donc ça a donné lieu à cette série. Michel Wiewiórka, donc grand sociologue, directeur d'études à l'EHESS, sur la reine du Sud, c'est sur le cartel de Sinaloa au Mexique, puis au Texas. Et puis on termine par Myriam Benriad, qui est professeur honoraire invité à l'université d'Exeter, grande spécialiste du Moyen-Orient, hein, et du Proche-Orient, et sur une série remarquable qui s'appelle Fauda, série israélienne, dont le producteur d'ailleurs, Matan Meir, a été tué dans les premiers jours du conflit à Gaza. Hein, il était réserviste. Et Myriam Benriad traite dans son texte de l'infranchissable paradigme de la vengeance opposant Israéliens et Palestiniens. C'est un texte tout à fait fascinant. Ces quatre chapitres-là, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont violemment politiques ?
Oui, ils sont violemment politiques. Enfin, on rentre aussi là, peut-être, dans une dimension... je ne sais pas, c'est différent. Ils ne sont pas plus violemment, peut-être, politiques que les autres.
Mais ils traitent de la violence, quand même.
Ils traitent bien sûr, de la violence. Mais, par exemple, ils traitent aussi, c'est ce que dit Michel Wiewiórka, de la plasticité de la violence. Mmh. C'est peut-être ça qui est intéressant aussi.
Caractère labile, un peu.
C'est ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ou tout noir ou tout blanc, cette violence. Parfois, elle a aussi des atours qui sont liés à l'émotion, qui sont liés à du personnel, à de l'intime. Et puis parfois, et c'est ce que dit très bien Michel Wiewiórka, c'est une violence, parfois, c'est pas qu'elle est gratuite, c'est qu'elle n'est pas toujours, en fait, utile. On pourrait finalement s'en passer ici ou là. C'est comme l'histoire de la spirale de la vengeance. À un moment donné, pourquoi tout ça continue en définitive alors qu'on est quasiment entre cousins d'une certaine manière et que tout ça pourrait s'arrêter. Et c'est pareil dans la violence que décrit Michel dans La Reine du Sud. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment le politique rentre dans l'intime. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que la science politique a peu fait, et c'est grâce à Janine Mosius-Lavaux qu'ici c'est fait. C'est-à-dire que sur le divan d'un psychanalyste, tout d'un coup, eh bien, on ne parle pas de papa, de maman, des complexes d'Oedipe, des tromperies ou que sais-je. Non, on parle du terrorisme. Par exemple, on parle des attentats en France, à Paris.
Et du PTS, etc.
Exactement. Et on parle de tout ça. Et tout d'un coup, c'est comment, même si on voulait s'extraire de la chose politique, même si la politique ne nous intéresse pas et qu'on trouve que tout ça n'est pas intéressant et extrêmement fatigant, dans cette fatigue démocratique que beaucoup de gens ressentent, eh bien, tout d'un coup, elle fait irruption dans vos cauchemars et elle vient vraiment percuter votre affect et votre intimité. Et je trouve quand même que le texte de Janine, là-dessus, le montre extrêmement bien. Sur Sambre, c'est peut-être un peu différent. C'est peut-être aussi comment la violence, et c'est pour ça que la plasticité est un mot intéressant utilisé par Michel, c'est comment cette violence... À un moment donné, il y a un violeur, ok, on est dans la violence avérée, objectivée. Et puis tout d'un coup, il y a des violences plus symboliques, on va dire. Et elles s'immiscent dans l'État, dans l'appareil judiciaire, dans l'appareil policier, parce que finalement, personne ne joue le jeu et personne ne prend cette affaire assez à cœur. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de culture du viol qui se répand même dans notre administration? Peut-être. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est profondément violent, mais dans des formes de violence extrêmement diverses.
On va terminer, parce que malheureusement, le temps s'écoule. Vous citez à la fin de votre introduction Matthew Stenberg et Nikos Vitek qui plaident pour l'usage des séries dans les programmes d'enseignement de la science politique comparative ou de la science politique. Est-ce que vous pensez à un tome 2 pour, comme on dit, dans les seuls écrans noirs de nos nuits blanches où on se fait, c'est bien connu, nos cinémas, comme dit Claude Nougaro, on puisse continuer à avancer?
Ah oui, j'espère un tome 2, parce que déjà, pas mal de collègues qu'on n'a pas pu mettre dans ce livre voilà, nous demandent s'ils pourraient potentiellement participer au tome 2. Évidemment, tout le monde est bienvenu. Et puis, il y a des séries qu'il faut absolument qu'on aille encore regarder, typiquement Serviteurs du peuple, je le rappelle juste, Volodymyr Zelensky a le rôle principal. Dans la série, il devient président de l'Ukraine. Quelques mois après, il est président de l'Ukraine.
Merci beaucoup Virginie Martin, avec Bruno Cotrès qui n'est pas là. Jeu de pouvoir, quand les politiques regardent des séries aux éditions du CERF. Merci.
Merci Jean.